Jésus a dit à ses disciples, bonjour, je suis en train de perdre le contrôle sur ma prédication. Donc, oui. Et c'est bon. C'est bon. Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, alors qu'ils étaient rassemblés autour d'une table, alors qu'ils s'apprêtaient à communier ensemble, alors comme on s'apprête à le faire, à partager ensemble autour de la parole de Dieu. Il a dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Et le mot pour « désirer vivement », c'est « epitoumadon », qui veut dire « je l'ai désiré avec feu ». Avec passion, avec désir, avec flamme. Et c'est l'état dans lequel je me trouve présentement. Parce que le feu qui nous anime et qui nous passionne et qui nous vient brûler en nous est aussi et surtout celui qui nous purifie. Le feu avant de nous allumer et de nous brûler pour nous passionner dans quelque chose, parce que c'est comme ça qu'on comprend nos passions. Quand on parle de la passion de Christ, on ne parle pas de sa passion pour le dessin ou pour les desserts. On parle de sa passion pour sa souffrance, sa semaine de souffrance. Et le feu qui purifie, quand Jésus dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous », il dit « C'est dans le feu que je la vis ». C'est dans le feu que je l'ai préparé et que je vais la vivre avec vous. Et c'est dans le feu que cette prédication s'est préparée. Et que j'aimerais juste partager avec vous, c'est ma femme. Ma femme me dit, ça se peut que je parle pas fort, mais ça, c'est quand je suis ému. Donc, je baisse la voix. Donc, c'est ça. Donc, c'est dans le feu qu'elle s'est préparée. Et elle se prépare encore, donc elle n'est pas complète. Mais je veux juste vous dire qu'on va l'aborder ensemble à cette Pentecôte dans laquelle on est comme des tableaux, comme si on était dans un musée et qu'on voyait des tableaux qui nous étaient décrits sur des situations qui ont été vécues par les disciples. Alors qu'ils s'apprêtent à vivre la Pentecôte, et ce moment fort, ce moment important, ce moment grandiose, auquel pour eux reste sans signification parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça représente. La Pentecôte, pour eux, ça ne veut rien dire. Pour nous, on le sait parce qu'on le lit. On sait ce que ça veut dire parce qu'on a plein de textes avant et après qui nous disent ce que ça veut dire. Mais pour eux, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. OK. Ils ont peut-être une idée, mais eux sont là puis ils essaient encore de faire du sens avec ce qui va leur arriver après, puis qui va être en contrôle, puis qui va diriger, puis qui va être le premier, puis qui va être à gauche ou à droite, et qui va être le meilleur dans tout ça. Mon message est ici, c'est vrai. OK. Donc pour eux, Pentecôte, ça ne veut rien dire. Je parlais avec quelqu'un hier qui me dit, demain, personne catholique, il me dit, demain, c'est vrai, c'est le dimanche, la Pentecôte, et c'est le dimanche des Lumières. Et elle dit, moi, j'ai beaucoup d'esprit parce que j'ai l'esprit ouvert. Là, je me suis dit, ça m'a posé des questions sur la relativité un peu de ce concept-là de la Pentecôte et à quel point le Saint-Esprit qui est déversé sur nous à la Pentecôte est bien saisi. Et le texte dans lequel j'aimerais nous amener, c'est un texte qui est revenu parce que je me suis demandé c'est quoi que j'allais amener aujourd'hui à plusieurs reprises depuis que je le sais, puis... ce texte-là, comme rebondi, vous savez, il y a des fois, il y a des passages qui rebondissent comme ça et qui te reviennent sans que tu sais pourquoi, trop. Et celui-là a rebondi à plusieurs égards. Et quand Jésus, dans Jean 7, vous pouvez juste écouter, hein, la parole nous dit « Bénis ceux qui écoutent et qui entendent la parole ». Donc, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné. Et j'aimerais qu'on laisse nous couler ces paroles-là en nous un peu, parce que Jean, bien sûr, écrit ça plus tard, il est vraiment plus tard, il est à Éphèse, on assume, où il écrit ces paroles-là, et on va juste d'abord les laisser descendre, et on va prier. Okay? Puis ensuite, on va juste explorer certains mots du texte pour voir des fois des sens autres qu'ils prennent, et ensuite entrer dans les tableaux que ce texte-là suggère. C'est bon? Prions ensemble. Père Céleste, c'est par ton esprit, ton moment. C'est le moment où tu viens par ta parole entrer dans nos cœurs, entrer dans nos esprits pour les sonder. Et que cette parole ne soit pas de mes mots, ne soit pas de moi, qu'elle soit uniquement, pleinement, entièrement, complètement de toi. Et viens... Viens t'adresser encore une fois, comme tu le fais, à moi, alors que ces mots-là sortent. Parce que je sais à quel point, encore maintenant, tu m'interroges, tu me guides à travers les réflexions de ces choses-là, et que je ne les comprends pas. Alors, j'aimerais mieux les comprendre moi-même, et avec mes frères, mes sœurs, avec cette communauté, assemblés autour de la table de ta parole, Seigneur Dieu, qu'on puisse les appréhender, les recevoir, les accueillir et leur obéir. Par Jésus, on te prie. Amen. Pardon, j'ai attrapé une grippe de... Non. Tu fais des foins. Fièvre des foins, oui. Donc, le texte est intéressant sur plusieurs égards dans Jean 7, 38, parce qu'il nous présente un Jésus qui se tient debout et qui utilise des mots qui sont très forts et qui reviennent ailleurs. Donc, j'aimerais juste d'abord discuter de mots avec vous et ensuite et de certains passages dans l'Écriture. Donc, ceux qui ont leur une Bible, levez la main. Vous êtes poignés là. Vous êtes pognés là. Donc, OK, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui vont lire au moment indiqué. Donc, levez la main. Je vais donner à quelqu'un Ésaïe 12, 3. Levez la main, quelqu'un. C'est reçu. J'ai vu d'autres mains à l'arrière, là-bas. Ça, je trouve qu'il y a un écho. Ésaïe 35, 6. Je ne veux pas que ce soit juste du monde en avant. Ésaïe 35, 6. Benoît, c'est bon. Quelqu'un d'autre qui veut lire un verset? Hey, monsieur, je suis professeur, donc d'habitude, je distribue les tâches. Fait que si vous ne venez pas, je vous le donne. Non, c'est 3 en avant, vous êtes dans la même famille? Non. Jessica, Ésaïe 44, 3. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Ah, pas dans la même famille, mais c'est beaucoup en avant, là. Je voudrais en arrière, là-bas, là. Ça va, on a-tu quelqu'un là-bas, là? Oui, frère. Ésaïe 55, 1. Et Pascal a levé la main, donc Ésaïe 58, 11. Stéphane, c'était pour se gratter. Mais... C'est bon? Donc, gardez-les en mémoire. 58, 11. 58, 11. Donc, juste pour regarder certains mots dans le passage qu'on lit présentement, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif. » Et vous savez, le mot « soif », c'est le mot... C'est le mot grec qui veut dire « dip ». Okay? Et vous savez que quand on prend de la « dip » et qu'on mange des chips ou n'importe quoi qu'on « dip », et qu'on le trempe, hein, et on nous interdit même les double dip. Hein, mais le mot, c'est dip. Ben, chez nous, il y avait le droit. Tu avais le droit. Chez nous, tu avais le droit. On s'aime beaucoup. Donc, mais tu sais, quand tu prends des carottes, des chips, n'importe quoi, tu dip. Et dans la trempette. Hein? Et le mot pour soif, c'est dip. Que tu puisses t'immerger, que tu puisses, pas t'immerger, mais bien sûr que spirituellement, c'est désirer ardemment. Ça, c'est comment on le traduit spirituellement. Mais le mot lui-même veut dire se dipper. Quand tu as soif, puis tu te dis, ce matin, depuis quelques jours, depuis plusieurs semaines même, je me réveille la nuit. Et je suis asséché parce que j'ai des allergies. Donc, le nez me congestionne et je me réveille. Et là, je respire par la bouche et j'ai la bouche, comme on dit par chez nous, chèche. J'ai la bouche chèche, sèche. Et là, j'essaie de reprendre ma gorgée. Je vois, il ne me reste même plus assez de salive. J'ai plus de salive. C'est, avoir soif, c'est ça. Avoir soif, c'est ça, c'est aller, donc, désirer boire, se dipper. Ensuite, il y a le mot boire. Le mot boire, c'est le mot pinot. Ça n'a rien à voir avec le petit vin qu'on aime bien. Mais lui, le mot pinot veut dire s'imbiber. S'imbiber, qui, lui, réfère simplement au fait que si vous prenez une éponge, que vous la mettez dans l'eau, elle se remplit et elle s'imbibe. Boire, c'est aller prendre, saisir, attraper, s'engorger de tout liquide qui est autour et de l'ingérer par l'intérieur. C'est ça que veut dire boire. Va prendre, va goûter, va chercher, imbibe-toi. Et il dit ensuite, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ah, là, et ça, le mot fleuve. Fleuve d'eau vive, d'abord, c'est un seul mot dans le texte original. C'est le mot est cute. Le mot est cute parce que c'est potamos. Comme dans? Exactement, comme dans hippopotamos. Comme dans hippopotamos, c'est ça. Et le mot potamos, en fait, reflète surtout l'idée d'un torrent. D'une rivière vive. On n'a pas été capable en français de le rendre dans un seul sens. On aurait pu mettre torrent, mais des fois, je vois pas là. C'est plus un. Je me souviens quand on était plus jeune avec les enfants, on allait à un ralliement au début du mois de mai qui se passait à Matapédia, et quand on descendait, on revenait par. On arrêtait un petit chalet de pêche qu'il y avait sur le long de la rivière Matapédia qui dégelait au printemps. Et quand ça se met à couler, puis que les montagnes laissent aller leur eau, puis que là, la rivière décide de prendre sa place et, comme on dit, de clairer, de dégager ce qui la bloque avec les morceaux de bois qui frappent partout, ça coule. Ça coule, c'est fort et c'est puissant. Et c'est de cette manière-là que le mot fleuve ou torrent s'exprime, le mot potamos. Remarquez ça, c'est important. On va revenir là-dessus. Le potamos. Et finalement, le mot son sein, de son ventre, de ses tripes, de ses origines, ça part de ci. Dieu nous dit, buvez beaucoup, buvez en grande quantité, puis il faut que ça vous prenne dans les tripes, que ce soit dans vos tripes. J'aimerais qu'on lise, mais Jésus dit aussi, comme dit l'Écriture, comme le dit l'Écriture. Et là, tu te dis, OK, mais où il dit ça? Moi, j'ai trouvé, enfin, bien sûr, Jésus avait une faveur pour Ésaïe, et j'ai demandé à cinq personnes de nous lire Ésaïe chapitre 12, verset 3, s'il vous plaît. Bien fort. Voilà, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ésaïe 35, 6. Amen. Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 55, 1.
Tout qui avait soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez, mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer.
Ou tous qui avaient soif, venez aux eaux. 58, 11. Venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Jésus reprend pratiquement ces mêmes paroles-là. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Et je me posais la question ce matin pour moi-même, et je pensais aux disciples qui sont là, qui attendent la Pentecôte. Et quel est l'état de ma soif à moi ce matin? Est-ce qu'ensemble, et j'entendais tous les défis qui sont placés devant nous en tant que famille d'Église, en tant que communauté de foi établie dans une plus grande communauté, en tant que famille d'Église dans une famille d'Église, en tant qu'une famille d'Église qui se prépare à se rencontrer avec d'autres familles d'Église à l'Assemblée générale pour y relever des défis encore et s'y joindre dans notre secteur d'influence, quelle est la soif que j'ai de ce que le Saint-Esprit vienne me permettre de rendre ce service-là pour Dieu? Parce que c'est ça que Jésus a dit à ses disciples. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et ici, Jean l'annonce avant. Et pour que les disciples, Suzanne m'a offert un verre d'eau tantôt, et j'ai failli dire non, mais j'ai dit, je prêche sur la soif, c'est embêtant de dire non. Hein? Mais quelle est ma soif? Quel degré de soif que j'ai de Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit, de la proclamation du message de l'Évangile en Jésus-Christ? Que je porte en moi aujourd'hui. Peu importe où je me trouve, peu importe la sphère d'activité dans laquelle je me trouve, quelle est cette soif que je porte en moi? Et les tableaux que j'aimerais vous dépeindre tout doucement sont ceux-ci. Les disciples, avant d'arriver à la Pentecôte, ont dû passer par trois tableaux. Trois moments, en regardant un certain recul, trois moments qu'ils ont dû affronter, veut pas, dans leur vie, afin de se présenter là et de pouvoir recevoir. Deux moments forts, deux moments qui les ont secoués grandement, et l'autre qui, bien sûr, est le moment lui-même de sentir tout à coup que quelque chose d'extraordinaire venait les engager. Et je dirais que pour bien le retenir, donc je vous suggère le mot bois, le boa, un peu comme le serpent, le B, le O et le A, qui vont vous permettre qui nous permettent de bien comprendre quel est le prélude qui mène à la Pentecôte. Quel est le prélude? Et on ne peut pas se rendre à la Pentecôte, on ne peut pas se rendre à l'aboutissement complet du torrent de l'Esprit en nous sans passer par ce chemin-là. On ne peut pas se rendre au torrent et de s'abreuver de l'Esprit sans passer par le chemin dans lequel lesquels les disciples se sont retrouvés. Et le premier, le B du bois, c'est les brisements obligés. Les disciples ont dû vivre dans leur vie personnelle, dans leur moi, dans leur projet personnel. J'aimerais être à gauche, j'aimerais être à droite. J'aimerais, on peut-tu être le premier? Je peux-tu faire ça pour toi? Jamais tu vas mourir. Même dans leur, non seulement, et même dans leur, et principalement dans leur conception erronée du royaume de Dieu. Leur conception erronée du royaume de Dieu a été sacrifiée sur cet autel-là également. Et combien trop souvent nos conceptions erronées du royaume de Dieu nous portent. Leur mauvais choix, les disciples ont été remplis de choix mauvais à cause, bien sûr, de leur conception erronée, à cause de leur ego, à cause de leur moi, motivés par leur désir personnel, charnel. Pierre, qui sur le mont de la transfiguration, saisit pas le moment. Et quand on écrit ça, on va dire de Pierre, oh, il comprenait pas ce qu'il faisait. Il comprenait pas du tout. Et il voit Moïse et Élie, puis, oh, on peut-tu leur faire une tente? Et Jésus dit, wow, minute, là, attends un petit peu. Là. Et le texte dit, parce qu'il comprenait pas ce qui se passait. Pierre se situait dans un agir qui n'avait rien à voir avec le plan que Dieu et que Jésus voulaient mettre à exécution à ce moment-là. Tout de suite, se précipiter dans un agir qui allait rendre service, qui allait aider, qui allait sûrement favoriser le mieux vivre ensemble de ceux qui étaient là et il me semble que ce n'était pas une mauvaise idée. Il ne savait pas ce dont il parlait. Nos peurs, le brisement de nos peurs et de nos craintes. Nos peurs et nos craintes qui viennent nous habiter tout au long de ces parcours. Et j'aimerais vous dire à quel point mon parcours, notre parcours, a été habité de brisements, de peurs et de craintes. Alors qu'on se dirige vers, je dirais, des ministères remplis, des choix personnels, et le péché vienne jeter tout à terre. Et Dieu engage dans le chemin du brisement. Un brisement, je le répète, obligé. On peut se tenir ici, assis là aujourd'hui. On peut aspirer à la puissance de l'Esprit. Il n'y a pas de puissance sans brisement. Il n'y a pas de puissance sans brisement. Sans brisement du moi, de mes projets. Donc, arriver à se présenter devant Dieu et dire, Seigneur, je n'ai rien et je ne veux rien. Je ne veux que ce que tu es prêt à me donner. Et comment le réfléchir, le concevoir? Et là, on me demande, vous allez où maintenant? Élise et moi, on dit, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et de scripter, hein, d'écrire le futur, c'est tellement le moi qui a besoin de faire ça. On a besoin d'être en contrôle. On a besoin de savoir ce qui va se passer demain parce qu'il faut payer les billes, parce qu'il faut... Il faut, comprenez, les assurances vont rentrer, l'électricité, le câble, mais de ne pas être en contrôle, c'est dévastateur. Pardon, excusez-moi. C'est dévastateur pour le moi, qui lui se cherche, qui lui veut trouver ses prises. Et Dieu me dit, accepte. Accepte de perdre même ce contrôle-là. Ce contrôle sur toi-même, sur tes projets, tes conceptions erronées du royaume, tes peurs, les relations malsaines. Les disciples, là, à peu près 2 mois avant la Pentecôte, ça chicanait sur la route pour savoir lequel qui allait être le plus grand. Lors du repas, ça chicanait encore. Come on! Quelle sorte de gang que c'est ça! Et Jésus, qui savait tout ça, préalablement leur promet à eux le Saint-Esprit qui va venir leur donner la puissance. Alors imaginons-nous ici un seul instant que Dieu, que Jésus-Christ et que le Saint-Esprit, la Trinité, ne viendra pas flotter sur nous si on ne s'abandonne pas. Imagine-t-on que nos problèmes, que nos défis, que nos troubles sont plus grands que ce que Dieu anticipe. Dieu veut se servir de ses enfants brisés. Et cette gang de il n'était pas d'accord, là. Il était en chicane, là. Ça ne s'entendait pas. Puis, c'est quoi que vous avez à murmurer en arrière? Jésus prend la peine de se retourner. Puis, c'est quoi que vous avez à vous chicaner en arrière? Et à eux, il leur promet le Saint-Esprit qui va venir leur donner la puissance. Mais la condition, la seule condition, c'est que nous devons nous abandonner. Nous devons abandonner toutes ces petites choses-là, nos projets personnels, notre moi, notre ego, et guérir nos relations personnelles. Je me suis toujours dit que le Seigneur avait attendu avant de leur donner, parce qu'il y a, ça, il y a eu besoin de temps avant que les relations personnelles se guérissent entre elles. Ça, bon, c'est sûr qu'il y avait la Pentecôte juive qui était en même temps, mais ils ont eu besoin de temps pour guérir de choses. Puis d'un fois, ça se peut qu'on se trouve dans la même situation, que dans nos vies, on vit des moments où le Seigneur veut briser des choses en nous. Il veut nous amener, il nous amène à des points de brisement. Et il arrive parfois qu'on le résiste, qu'on le retient, qu'on ne le dégage pas, qu'on ne le laisse pas aller, et qu'on a quelque chose contre un frère et qu'on ne le laisse pas aller. Je lisais dans un livre hier, justement, que la plus grande marque de l'amour, on le sait, c'est quoi la plus grande marque de l'amour? Non? La plus grande marque de... Ah non, la plus grande marque du disciple. J'ai donné la réponse. Ça s'appelle, hein? Ça s'appelle manquer. J'ai donné la réponse. Enfin, je faisais ça à l'école. Je donnais des questions, puis je donnais la réponse. Oh boy! Ça va mal. Donc, la plus grande marque du disciple, c'est quoi?
L'amour.
Et l'individu disait dans son livre, il dit, autant on ne voit plus, on a de la difficulté à discerner la puissance de l'Esprit dans l'Église, autant on a de la difficulté à y voir l'amour agapé de Dieu dans l'Église. L'amour agapé de Dieu, le véritable amour agapé de Dieu, est autant difficile à discerner que la puissance de Dieu qui se manifeste. Et là, je me disais, mais voyons donc, il me semble qu'on s'aime, vraiment, qu'est-ce que je retiens? Quelles sont mes barrières? Quels sont mes brisements obligés? Mes brisements obligés. J'aurai pas le choix. J'ai pas eu le choix. On n'a pas le choix. Des routes à affronter la honte, à affronter ce qui venait devant nous sans savoir quoi, et à laisser le Saint-Esprit nous y devancer. C'est une reddition. C'est de rendre les armes. Je prenais en note ici que trop souvent, on vit une foi chrétienne que j'appelle des fois de la promessologie. OK? L'idée, c'est que de la promessologie, c'est qu'on a une lecture de l'Écriture et de notre relation avec Dieu qui n'est basée que sur les promesses. Et on a à la fin de nos Bibles Gédéon tant de textes de promesses et des livres sur les promesses, alors que l'Écriture me parle du Messie souffrant et que la foi chrétienne ne sera pas facile. C'est ainsi qu'on a traité votre maître. Combien à plus forte raison serons-nous traités? Vous aurez des persécutions dans le monde, mais gardez courage. J'ai vaincu le monde. Mais on vit souvent de la promessologie. Il ne nous arrivera rien. Et il est censé nous arriver rien. Et là, je vais lire ça, puis je vais me baser là-dessus. Alors que ce que Dieu me dit, il faut que tu prennes l'attitude de ton maître, celui du serviteur qui va souffrir. Qui va souffrir. Deuxième tableau. Enfin, les brisements obligatoires, il est plate. Il n'est pas un choix. Il n'est pas optionnel. Non, il n'est pas optionnel. Et je pourrais faire le tour de la salle et demander, souvenez-vous de brisements obligatoires que vous avez vécu? Puis le pire, c'est que l'obligatoire est comme pas genre, c'est moi qui le choisis. Je choisis quand je vais être brisé. Ça arrive. Ça arrive parce que Dieu choisit de te dire, tu ne veux pas apprendre? Je vais te mettre le nez dedans, moi. Je vais te mettre le nez dans le brisement. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va arriver. Et les disciples, aussi un autre tableau, donc, on est rendu ici, un autre tableau, c'est une obéissance qui s'abandonne. Une obéissance qui s'abandonne. C'est-à-dire qu'ils sont là, et les disciples, genre, marchent à tâtons dans une foi qu'ils ne comprennent plus. Ce Jésus-là, qui était censé être notre Messie, notre roi, tout à coup, il meurt, puis il donne sa vie, puis il nous dit qu'il va faire ci, qu'il va faire ça, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Et là, il dit, non, il l'a-tu dit ou est-ce qu'il ne l'a pas dit? C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ça se peut-tu ou ça se peut-tu pas? Donc, leur foi là, est comme devenue une sorte d'incompréhension. Et un des textes que je lisais sur la passion du Christ est celui-ci, qui racontait comment le trouble éprouvé par les disciples lors de la prière de Jésus dans le jardin, lors du temps de ce moment-là avec Jésus dans le jardin. Imaginez-vous, et le problème avec nous, on lit les textes, hein, puis on lit ça en quelques minutes, là, tout dépendant des versions, et ça passe vite. Ça passe vite. Et là, avec les films d'aujourd'hui, des fois, on peut mettre plus d'émotions, mais on dit, oh, c'est pas théologique, c'est ci. Là, on devient très théologien. Mais la méditation portait sur la passion de Jésus et le visage de Pierre qui change quand il voit son maître. Parce que Jésus, on le sait, à la fin, il transpire comme des gouttes de sang. Hein? Pardon. Et il dit, imaginez Jésus qui vient réveiller ses disciples et qui leur dit, vous ne pouvez pas prier avec moi. Mais Pierre se tourne vers Jésus et qui voit dans le visage de son maître et qui voit la terreur dans le visage de son maître. Là, et le doute qui s'installe, parce qu'à chaque fois qu'il revient, c'est la même chose, et un peu plus terrorisé. Puis là, il me dit, mais voyons, mais comment ça se fait? Où est-ce qu'il est mon maître si puissant? Où est-ce qu'il est celui qui enseignait contre les pharisiens, puis les ci, puis les ça, puis qui manifestait sa puissance avec grandeur? Et là, il est là, puis il vit pleinement son humanité. Il vit pleinement son humanité, puis là, il me ment. Ben voyons donc. Il a peur. Il est terrorisé. Et là, les disciples vivent dans une foi qui est comme, je te fais confiance, Seigneur, mais je le sais-tu ou je le sais-tu pas? Puis des fois, dans nos vies, on se trouve là. On se trouve là où on est comme dans une ambiguïté de doute de je ne sais plus trop quoi, à cause de nous-mêmes, pas à cause de lui, il reste stable. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est éternellement le même. Mais mon regard sur lui se pose différemment. Et les disciples se sont retrouvés dans un espace où ils ont dû pratiquer une foi qui ne comprend pas, qui ne s'explique rien, et une foi qui fait confiance à Dieu, qui agit dans l'invisible. Donc, il l'a dit, il a-tu dit qu'il allait, mais il a dit qu'il allait revenir, il a dit, rendez-vous là, puis je vais être là. Oui, oui, mais c'est-tu sûr, ça? Et Pierre qui dit, ouais, ben moi, je pense que je vais retourner pêcher. Nous autres, on va retourner sur la route d'Emmaüs. Peut-être qu'on va retourner chez nous. Puis il y avait donc, mais en même temps, t'y retrouves tous là. T'y retrouves tous là. Et est-ce qu'on est prêt, nous, à manifester au-delà des difficultés qui nous surgissent, qui nous englobent, qui nous environnent, à manifester une foi qui ne comprend rien. Une foi qui n'a pas de prise sur quoi que ce soit, parce que celui qui est l'objet de la foi est plus grand que la circonstance dans laquelle je me trouve. Je ne comprends pas. Je ne m'explique pas. Je n'y arriverai pas. Je ne m'en sortirai pas. Mais je sais que mon Rédempteur vit. Pas évident, ça. Et souvent, on se retrouve là. Les disciples ont passé ce chemin-là. Jésus savait tout ça. Jésus savait tout ça dans ce chemin-là. Il les accompagne là-dedans à distance, mais il savait la route par laquelle ils allaient passer. Quand on dit qu'on a soif, c'est des routes comme ça qu'il faut passer. Est-ce qu'on a soif? Est-ce qu'on sent qu'en nous que Dieu veut briser quelque chose que moi, je ne suis pas prêt à lâcher, que je ne suis pas prêt à abandonner, que je ne suis pas prêt à laisser? Et il y en a... Mon père disait boutique. Boutique, il y en a. Il y en a des brisements que je ne suis pas prêt à laisser. Et intuitivement, dans la mesure où le lumignon, le petit bout allumé rouge de l'allumette, le lumignon de la foi est réel en moi, dans la mesure où le feu de la foi est réel en moi, je sais intuitivement, au fond de moi, ce que je dois faire. Je sais intuitivement, au fond de moi, ce que je dois abandonner, ce que je dois laisser, ce que je dois déposer, ce que je dois remettre. Je le sais. Et la dernière lettre, c'est, je termine avec ça, c'est le A, c'est le torrent. Jésus l'avait promis à cette gang-là qui doute, qui n'est pas sûre. Pierre qui décide, bon, ben moi, je vais retourner à la pêche. D'autres qui s'en vont à MS. On va y aller avec toi finalement. Donc, la communauté se recrée tranquillement et Jésus leur promet un torrent. Ils connaissaient leurs étapes difficiles, ils connaissaient leurs égos personnels froissés. Ils connaissaient leur conception erronée du royaume, leurs relations malsaines. Il connaissait même leur cœur profond, à chacun individuellement. Et il leur a dit, le Saint-Esprit va venir sur nous tous et sur vous tous. Wow! Michel nous a enseigné ça, le wow, hein? Wow! Moi, j'en reviens pas. Dieu veut m'envoyer son Saint-Esprit pour que je sois fort et puissant. Non. Parce qu'au début de son temps, de son dernier discours avec eux, Jésus a mis le comble à son amour. Jésus a mis le comble à son amour pour eux. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a démontré sa puissance en faisant miracle par-dessus miracle, par-dessus miracle, par-dessus miracle. Non. Il a pris la serviette, il a pris l'eau, et il est devenu serviteur pour chacun d'entre eux. Avant même de leur promettre tout ça, il a dit, voici l'exemple que vous devez suivre. Le maître n'est pas plus grand que son serviteur. Si vous voulez devenir grand dans le royaume de Dieu, puissant dans le royaume de Dieu, devenez serviteurs les uns des autres. Et la puissance de l'Esprit ne peut pas s'accomplir si elle n'est pas au service des uns et des autres, au service de l'autre, dans l'amour, l'amour agapé si difficile à vivre en commun, parce qu'un des fruits de l'amour agapé, c'est les relations, bien sûr, et c'est les relations qui se retrouvent dans le pardon, dans l'acceptation, dans l'accueil et dans l'unité. C'est ce que nous dit Jean, alors qu'il nous dit deux choses qui se retrouvent dans la... Je retourne à mes notes comme si c'était utile. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. De l'amour les uns pour les autres. Donc, qui va connaître que vous êtes mes disciples? Tous. Mais plus loin, dans Jean 17, il va dire, « Pour que tout le monde croit, ils sont un, ils sont unis afin que le monde croit. » Jésus veut nous faire passer par des brisements obligés, par une obéissance qui s'abandonne, afin de nous communiquer un abreuvement sans limite. Avez-vous pensé à ça? Un abreuvement, donc ça fait le boa, là. Ceux qui cherchaient le boa, là. Ceux qui écrivent, donc le B et le A, c'est abreuvement sans limite. Abreuvement sans limite. Parce que dans l'Apocalypse, Jean voit le trône. Il voit le trône de Dieu et il me montre un fleuve d'eau de la vie. Limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et le mot pour le fleuve d'eau, c'est le Potamos. C'est le même fleuve d'eau qui coule. Et ce fleuve-là, il est placé au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie qui produit 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Le Saint-Esprit nous habite, veut couler en nous jusque dans l'éternité, afin que nous servions à la guérison des nations. Frères et sœurs, nous voyons ici un exemple, un microcosme, si je peux dire, de la guérison des nations. Plusieurs sont représentés. Et Dieu veut nous amener encore plus loin, afin de guérir les nations. Mais il faut accepter le brisement. Il faut accepter l'obéissance aveugle, complètement abandonnée. Et ensuite, de boire, de s'imbiber, de s'abreuver à cette eau infinie. Prions ensemble. Père Céleste, comment ne pas venir se présenter devant toi les mains ouvertes aujourd'hui? Moi-même d'abord, tout seul, et peut-être d'autres qui sentent que le brisement, que tu réclames quelque chose de moi, de nous individuellement. Et Père, moi, je veux te dire que je veux me présenter devant toi et accepter ce que tu veux réclamer. Et je prie afin que mon obéissance en soit une qui s'abandonne parce que j'ai soif. J'ai soif de toi. Et alors que ici tu secoues la tête en disant oui, peut-être que tu veux faire le pas. Peut-être que tu veux faire un pas de foi en disant moi je veux boire à cette source avec ma communauté, avec ma famille, autour de la table de la parole, partager la coupe. Oui, vous la partagerez, a dit Jésus. Oui, tu peux la boire, mais tu vas la souffrir. Et est-ce qu'on est prêt à la souffrir ensemble? Seigneur, viens donc briser en moi ce qui a encore besoin de l'être et ce qui a toujours besoin de l'être. Soumets-moi dans l'obéissance et que des fleuves, un torrent qui ravage tout, qui ramasse tout, qui coule jusque dans l'éternité, viennent remplir chacun d'entre nous. C'est par Jésus que nous te prions ensemble, Seigneur Dieu. Amen.